at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, pour sa chronique trimestrielle, nous accueillons Oshi. Bonsoir Oshi.
Bonsoir.
Salut.
Notre invité aujourd'hui est Nicolas Lopez. Il est chargé de relations avec les éditeurs au département son, vidéo et multimédia à la BNF depuis 2017. Son travail est principalement de collecter et d'archiver des œuvres par le biais du dépôt légal, des jeux vidéo, entre autres. Il nous rejoindra seulement au moment de l'entretien. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté notre invitation. Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant d'un aspect particulier d'adaptation The Witcher, puis Cindy nous contera le deuxième épisode de sa chronique. Ensuite, Alex vous parlera de son dernier coup de cœur, Jean mènera l'entretien de Nicolas Lopez, puis nous entendrons la chronique de H. Et enfin, l'émission se conclura par notre classique blind test, orchestré cette fois-ci par Alexandre. Il y a quelques mois, je vous parlais de l'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski, The Witcher, par CD Projekt Red. Avec un total de 7 tomes, 3 jeux principaux, sans parler des spin-offs et autres nouvelles écrites sur cet univers, autant vous dire qu'il y a matière et que je pourrais faire une chronique sur le sorceleur à chaque nouveau mois. En me replongeant dans la saga, j'ai été interpellée par un aspect que je vois encore trop peu évoqué quand on parle du sorceleur, la représentation des personnages féminins dans les jeux, ou plus précisément ici, leur hypersexualisation. C'était d'ailleurs l'objet de vos premières remarques sur ma chronique. Quand on lance The Witcher, on est très vite frappé par une sorte de virilité, de masculinité qui soigne de tous les ports du jeu. Le héros Geralt est un mâle alpha, capable de séduire toutes les femmes, femmes avec toute la même plastique. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette représentation des personnages féminins vient des écrits de Sapkowski ? Je vous préviens, en 4 minutes, vous imaginez que je ne peux pas être exhaustive sur le sujet. Tout d'abord, l'auteur le dit lui-même dans une interview. Un point de contact certain entre le livre et le jeu vidéo, c'est le succès de Geralt auprès des femmes. C'est vrai que la sexualité est un élément récurrent dans l'œuvre, traité avec une certaine banalité d'ailleurs. Les femmes en sont tantôt victimes, au travers de viols conjugaux ou de guerres, tantôt elles en sont les initiatrices, pour gagner leur vie, pour l'utiliser à leur avantage en manipulant des hommes de pouvoir, ou pour tout simplement leur plaisir personnel. Et j'ai la nette impression que les jeux vidéo n'ont surtout retenu que cette deuxième partie, des femmes séduisantes et qui en jouent. Quand j'ai commencé le premier The Witcher, sorti en 2007, c'est donc un élément qui est présent, mais dont la récurrence m'avait vraiment choquée. Le jeu nous permet d'avoir à plusieurs reprises des relations sexuelles avec des femmes. L'acte est représenté par une carte avec un artwork du personnage féminin que l'on a conquis dans une pose suggestive. Car c'est bel et bien une conquête, l'obtention de ses faveurs survenant à l'issue d'une quête. La femme objet comme récompense au mâle alpha, une carte que l'on collectionne. Et des cartes, il y en a au moins une vingtaine. Oui, vous avez bien entendu, une vingtaine. Alors dans ce lot de personnages, certains sont existants dans les livres et ont parfois même eu une aventure avec Geralt, comme Shani ou Triss. Mais on trouve également, préparez-vous, Vesna, Abigail, Morhaime, Rosalind, Yeux Bleus, Ada, Céline, Toruviel, la femme des faubourgs, la commère, la demi-elfe, la marchande, la secrétaire, la noble et les infirmières. Au pluriel, bien sûr. Dans cette liste non exhaustive, beaucoup de femmes n'ont même pas de prénom et sont désignées d'abord par leur fonction, la femme objet, passive, un fantasme figé sur une illustration. L'exact opposé de ce que cherche à faire l'auteur avec ses personnages féminins. Il explique dans une autre interview qu'il trouve ennuyant voire répugnant les histoires de fantasy où le héros peut coucher avec n'importe quelle femme. Elles sont la récompense du guerrier et en tant que telles, elles n'ont rien à dire. Pourtant, les femmes ont beaucoup à dire dans le sorceleur. Elles sont déjà très présentes, au moins autant que les hommes, qu'elles soient des magiciennes, mais aussi des paysannes, des pêcheuses, des prostituées, des baronnes, des guerrières, des prêtresses, et d'autres encore. On retrouve bien cette diversité dans les jeux, mais dans les romans, elles sont loin d'avoir cette plastique uniforme. Ciri, par exemple, est représentée avec une légère cicatrice sur la joue gauche. Chez Sapkowski, cette cicatrice défigure son visage. Je cite, « La cicatrice l'enlaidissait, c'était un fait. La jeune fille serait à jamais défigurée. » L'auteur évoque aussi des éléments de leur quotidien comme leurs règles, et ce à plusieurs reprises, alors que c'est un sujet encore assez tabou et qu'on ne retrouvera jamais dans les jeux. Mais aussi des thèmes comme l'avortement, la fausse couche, et ce de façon très pragmatique et sans dramatiser. Et puis les femmes ont aussi du pouvoir dans The Witcher. La loge des magiciennes par exemple, qui est composée exclusivement de femmes car elles considèrent les hommes indignes de les suivre. La magie est une affaire trop sérieuse pour en confier le sort à des hommes. Elles façonnent toute la politique et les alliances des royaumes du Nord selon leur bon vouloir. On a aussi des femmes queer avec Philippa devenue lesbienne et Ciri qui est bisexuelle. le fétichisme avec lequel est représentée Philippa dans The Witcher 2 nous vaudrait une chronique entière. Alors l'écriture de Sapkowski n'est pas exempte de défauts. La beauté des magiciennes est bien calquée sur des normes de beauté standard. Voici ce qui est écrit au sujet de la taille de Triss, dans le tome 6. Au contraire, elle en avait mangé deux fois plus que prévu, et elle commençait à présent à craindre pour sa taille, ses 22 pouces dont elle était si fière. Un détail qui ne manquera pas d'être repris par l'adaptation. Pourtant, les jeux The Witcher parviennent à nous dépeindre des personnages féminins cohérents avec les écrits, que ce soit dans leur caractère, leurs compétences, ou même certains aspects de leurs vêtements. Mais elles sont aussi conçues physiquement pour être un objet de désir, un fantasme pour le joueur. Le résultat d'une conception faite majoritairement par des hommes, et sans doute pour des hommes. Merci de m'avoir écouté.
Du coup, est-ce que t'as regardé la série, Lys ?
Oui, oui, oui.
Et qu'est-ce que t'en as pensé par rapport au bouquin ?
Vaste question. Je trouve qu'il y a des partis pris intéressants qui sont faits, notamment sur les choix des acteurs et des actrices qui ont été choisis pour les personnages. Après, sur l'histoire, je trouve que c'est un peu plus... j'ai un peu plus de mal avec certains... j'ai pas l'impression qu'ils savent trop où ils vont, donc je suis un peu mitigée sur la deuxième saison là, qui est sortie il y a pas très longtemps.
Et la place des femmes dans la série ?
Moi je trouve que c'est moins clivant que dans les jeux, mais après forcément ils reprennent des choses, il y a des scènes qui sont reprises des livres, donc comme je disais, il y a aussi des scènes chez Sapkowski qui sont pas exemple de défauts ni de biais, donc on les retrouve forcément un peu dans la série, mais globalement je trouve que c'est beau, enfin pour moi c'est beaucoup mieux, mais en tout cas c'est plus diversifié et ils ont essayé. Et,
Merci beaucoup Lys pour ta chronique. Ça me fait énormément penser à la table ronde que j'ai menée hier, enfin à laquelle j'ai assisté plutôt, où on parlait des biens inconscients dans le jeu vidéo, et on a beaucoup parlé de la place de la femme et de la sexualisation en fait des personnages, et à quel point en fait c'est malheureusement nécessaire pour certains pour vendre des jeux vidéo, et à quel point en fait ce sont des biais en fait qu'on essaye aujourd'hui de déconstruire de plus en plus, parce que les jeux ne sont plus faits uniquement par des hommes blancs dans les années 70. Et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue sur un jeu qui est sorti en fait il y a pas si longtemps que ça en vrai, et qui malheureusement rentre quand même dans tous ces préjugés quoi.
Et puis pour le coup, c'est un des jeux qui en est pour moi un des plus représentatifs de ces dernières années. Hein. Qui s'en cache pas, je pense d'ailleurs.
J'avais peut-être une question qui était plus au sujet des livres, parce qu'en fait, pas mal des trucs que tu as évoqués dans les livres, ça m'évoque des tropes qui ont aussi été un peu critiquées, par exemple, pendant Game of Thrones, le viol qui est utilisé assez systématiquement comme moyen de faire évoluer les personnages, comme mécanisme narratif. Ou encore typiquement quand la première remarque qu'on fait sur quelqu'un qui a une cicatrice au visage, c'est que ça l'enlaidissait. Si c'est traité de la même façon chez les hommes et chez les femmes, c'est bon, ça peut être ok, mais ça peut aussi quand même pas mal trahir un certain regard. Et du coup, est-ce que pour toi dans les livres tu voyais le traitement comme beaucoup plus égal et peut-être plus qui évitait un peu tout ça, ou est-ce que les jeux vidéo c'était assez caricatural la façon dont les persos sont sexualisés. Qu'est-ce que tu pensais des livres là plus précisément ?
Alors c'est un point sur lequel j'ai essayé de faire vraiment attention pendant ma lecture, et j'ai même un peu essayé de chercher la petite bête pour être sûr de pas trop pour un peu détecter ce genre de choses. Et par exemple, comme je parlais de la cicatrice de Ciri, en fait c'est les visages défigurés chez l'auteur, c'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Ça arrive même d'ailleurs beaucoup plus chez les hommes, mais elle aussi ça lui arrive, et plus ou moins en fait je pense un peu pour la rapporter un peu à son statut de guerrière, enfin en tout cas de quelqu'un qui se bat, en tout cas tous les gens qui ont globalement des cicatrices c'est parce que c'est des gens qui se sont battus à la guerre. Et du coup dans les jeux en fait on voit pas du tout de femmes qui sont marquées en tout cas par ça, à l'inverse quoi, enfin sa cicatrice c'est vraiment très légère, c'est vraiment pas le premier truc qu'on remarque, alors que c'est quelque chose qui est très marquant pour le personnage dans les livres quoi.
Je me posais la question de la dernière production de CD Projekt, à savoir Cyberpunk. Je l'ai pas fait parce que j'en ai pas très envie, et puis parce que de toute façon ça m'intéresse pas trop, mais pour celles et ceux qui l'auraient éventuellement vu, joué ou qui auraient éventuellement essayé, j'avais cru voir passer des critiques à ce sujet-là sur le fait aussi de pouvoir avoir des relations sexuelles avec beaucoup de personnages, de PNJ rencontrés, etc. Est-ce que du coup il y avait potentiellement les mêmes biais et problèmes qu'on pouvait voir dans les adaptations de The Witcher? Ou est-ce qu'ils ont bossé de ce côté-là, même si a priori je leur fais pas très, enfin pas énormément confiance pour ça, mais je me posais la question.
Ouais, j'ai pas terminé Cyberpunk. J'y ai joué peut-être une trentaine d'heures, je crois, quand il est sorti. Et pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup mieux amené que dans The Witcher, en fait. Parce que dans The Witcher, il y a ce truc où, enfin, par exemple, moi, j'ai joué vraiment que au 3, comme beaucoup de gens, je pense. Il y a ce truc où on arrive dans le jeu et en fait, tous ces personnages se connaissent déjà, ont déjà eu leur relation, ont sans doute tous couché ensemble à un moment, et du coup c'est un peu compliqué à appréhender, je trouve. Parce qu'il y a ce truc de Geralt qui, en gros, qui arrive et qui dit « Ah, salut, machin, ouais, bah, oui, je me souviens, on a couché ensemble, vas-y, on remet ça, quoi. Bon, je t'aide au passage à faire une quête ou deux, mais voilà. Voilà globalement comment ça se passe. » Là où dans Cyberpunk, c'est vraiment la rencontre des personnages qui ont, je trouve, des arcs narratifs peut-être un peu plus poussés, dans le sens où on les rencontre, on fait vraiment plein de choses avec eux avant de débloquer ces romances-là. Et voilà, ça reste un jeu franchement problématique, mais que de ce côté-là, bon, enfin, de ce côté-là, ça me semblait pas trop mal foutu.
On passe à la suite avec ta chronique, Oshi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
À toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter d'étranges légendes qui désormais font leur coming out. Écoutez attentivement, voici l'histoire des origines de la jeune Tetris. Il était une fois, dans le monde obscur de l'infini programme, un peuple de personnes numériques qui vivaient ensemble. Parmi ces personnes, l'une d'entre elles était différente. Et pour cause, il lui était impossible de comprendre un traître mot prononcé par ses congénères. À chaque fois, c'était la même chose. Eux parlaient en chiffres, tandis qu'elle s'exprimait en forme. Sa façon étrange de communiquer lui valut le surnom d'entité bizarre, possédant un bug, et elle fut rapidement confrontée à la solitude. Puisque les autres ne voulaient pas communiquer avec elle, se disait-elle, qu'il en soit ainsi. Elle se contenterait de sa propre compagnie. Cela, mes alliés, marque le début de notre épopée, lorsque Tetris s'enferma dans son propre cerveau numérique. Dans sa tête, tout était plus simple. Elle s'imaginait empiler des colonnes, des lignes, des losanges, encore et encore, se créant des dialogues avec soi-même. Toutes sortes de constructions apparaissaient dans son subconscient. Des châteaux, des ponts, des civilisations entières même. Et Tetris pensa que, peut-être, si elle pensait assez fort, elle réussirait à communiquer avec les siens. Certaines entités tentèrent de faire des efforts pour comprendre Tetris. Mais il faut dire qu'elle était si différente. Et c'était si fatigant de toujours faire le premier pas, de chercher la communication, voire même de la forcer. Alors les entités cessèrent très vite et la laissèrent dans son univers. « Cela ne marche pas », pensa Tetris. Son peuple avait beau la voir, il ne l'entendait toujours pas. « Alors comment faire ?» se dit-elle. « Comment attirer leur attention ? Comment dialoguer ?» Et tout en se posant une multitude de questions, la réponse lui vint d'elle-même. Elle devait transformer la communication en jeu d'enfant. Littéralement. Le plan était parfait. L'entité numérique y accorda de nombreux mois, cherchant désespérément une façon de rendre son schéma de pensée attractif. Ce ne fut pas sans remettre en cause les efforts qu'elle faisait. Pourquoi était-ce à elle de s'intégrer dans la masse ? Une question qui ne trouva pas de réponse, même le jour où elle termina sa création. Il s'agissait d'un jeu de construction, d'apparence anodine, qui lui permettrait de communiquer avec les autres entités. Lorsque son peuple découvrit le jeu, Tetris se sentit pour la première fois de sa vie comprise. Son plan avait fonctionné. À travers des constructions simples et efficaces, son peuple avait cette douce impression d'enfin commencer à cerner la brebis noire du troupeau. De son côté, Tetris fêta longtemps l'engouement et la dévotion avec laquelle son peuple se mit à échanger avec elle. Malheureusement, tout était trop beau pour durer. La communication qui au tout début était apparue comme un cadeau, se faisait désormais toujours plus rapide, plus complexe, plus illogique. Bientôt, le jeu devint un mode de vie, et le peuple entier se mit à dialoguer dans une nouvelle langue qui, bien que ressemblant énormément à celle de Tetris, était en réalité outrageusement différente. Tetris en perdit la raison. Elle avait tout fait pour que son peuple la comprenne. Elle avait créé un jeu basé sur sa propre façon de penser pour réunir les gens. Elle avait réussi à discuter avec eux pour la première fois. Mais hélas, son peuple s'était approprié sa réalité. Tetris en perdit son identité. « Ce n'était pas la solution, » pleura-t-elle. « Vous essayez de me ressembler, mais je vous comprends encore moins, » pensa-t-elle. « Avez-vous pensé aux gens comme moi, qui souffrent de vous voir nous imiter ?» accusa-t-elle. Malheureusement, remplir des cases n'était pas ce qu'elle aurait dû essayer de faire. La douleur la déchira et la solitude de l'échec revint, encore plus forte. C'est pourquoi Tetris décida de s'en aller. Aujourd'hui, des rumeurs racontent que Tetris a erré pendant des années sur les sentiers artificiels. On la raconte, reine d'un territoire nouveau, qui, aujourd'hui encore, attend la venue de compatriotes qui partageraient avec elle un point commun, leur extraordinaire différence. Mais ceci, mes alliés, est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup pour ta chronique. J'ai trouvé ça très beau et puis très bien écrit, comme tu sais le faire. Si jamais je peux, du coup, on peut faire comme la dernière fois où tu étais parmi nous et où du coup on avait un peu essayé de deviner les thématiques que tu voulais développer avec ton conte. Moi j'y vois, un des thèmes principaux, je pressens que c'est un peu tout ce qui peut concerner éventuellement la réappropriation culturelle, et c'est un petit peu ces thématiques-là. Est-ce que je suis complètement à côté ou est-ce que ça va ?
Alors ça se rejoint, il y a des proximités, c'est un bon point mais ce n'est pas tout.
Okay.
Du coup, je pensais à une autre forme de réappropriation, c'était plus réappropriation des luttes, des combats des personnes.
Je pense qu'on se rapproche un petit peu plus avec celui-là. Il y a un peu des deux, c'est vraiment cette idée de combat des luttes, combat de la culture, combat de la personne en elle-même. Il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec Tetris, qui est que... C'est devenu un succès mondial assez rapidement, alors que le jeu, il n'a pas vraiment de complexité. À l'époque où il est sorti, il était assez simple. Et je me suis demandé si on avait cette possibilité de raconter quelque chose lié à l'inclusivité, en utilisant simplement des formes. Et ça m'a vraiment fait penser à un peu ces idées d'exclusion sociale, de réappropriation à la fois culturelle et à la fois d'objectif, en fait, tout simplement.
C'est pas forcément pour faire une interprétation, mais voilà, j'ai l'impression effectivement que ça parlait d'une certaine façon dont les gens reçoivent les luttes, les récits de luttes, se les approprient, je répète ce que tu dis. Et oui, c'est un peu ce dont je vais essayer de parler de ma chronique. En plus, je vais parler un peu d'un jeu d'anéantropie qui commence par un faux Tetris. Donc voilà, j'espère que je dirai des trucs intéressants aussi. Mais c'était aussi très intéressant à écouter.
C'est maintenant au tour d'Alex de nous parler de son coup de cœur du mois.
Merci Lys, et petite chronique aujourd'hui, parce que je vais être honnête, j'ai rien à vous dire. Genre vraiment rien, nada, que chi. Et la raison est simple, j'ai pas joué du mois. Alors vu que je pense que vous n'êtes pas prêt pour un vieux gars qui vous fait un monologue sur le fait d'accepter de faire une pause dans ses hobbies, et que c'est ok de ne pas jouer aux dernières sorties, voire de ne pas jouer du tout. J'ai eu un coup de cœur l'an dernier, et c'est un jeu qui m'a occupé presque 400 heures. 400 heures, vous vous rendez compte, pour un gars qui dit qu'il n'a pas eu le temps de jouer ce mois-ci. Alors voilà, j'ai découvert fin 2020 l'univers de Spelunky, avec son deuxième opus développé par Derek Yu, et dont j'avais rien à faire avant de réaliser que mon copain Fash, hypé par un jeu à peu près une fois tous les 10 ans, l'attendait comme le messie. Eh bah les gars, qu'est-ce qu'il avait raison ? Spelunky 2, c'est un roguelike, un jeu avec des niveaux générés aléatoirement et dont certains éléments restent d'une partie à l'autre. J'entends bien sûr des éléments à l'intérieur des 10 niveaux. Et si vous pensez à Hades, vous avez presque raison, puisque Hades, lui, est un roguelite. C'est-à-dire la même chose, mais avec des éléments de progression qui restent d'une partie à une autre. Ces fameux pouvoirs que vous débloquez. Et Spelunky 2, pour moi, c'est 400 heures, dont presque autant de chômage, pour décoder des niveaux, les parcourir d'abord très lentement, en mourant beaucoup, genre vraiment beaucoup, puis plus rapidement, en lisant les pièges qui sont trop souvent bien placés pour être vrais, les ennemis qui peuvent me tuer en un coup, ou même les esclaves que j'ai libérés au péril de ma vie, bien renommés les débiles, qui, sans le faire exprès, vont tout faire pour me tuer au lieu de m'aider. Il y a des cavemen, des lavamen, des aliens, des dieux, tout veut votre mort dans Spelunky 2, et bien qu'en devenant bon à ce jeu, que je trouve vraiment excellent, vous aussi vous finirez par dire, après une mort inattendue, « Come on, Derek !» Est-ce que vous aimez bien les roguelike? Ou les roguelite, d'ailleurs?
Alors, personnellement, je n'aime pas trop les roguelite, ou les roguelike, mais il s'avère qu'en narration, en ce moment, je travaille principalement, je pense que 70% des jeux sur lesquels je travaille sont des roguelike ou des roguelite. Donc, je finis quand même par beaucoup travailler et développer la narration autour de ces jeux, qui est quand même assez classique. On a un système assez simple de retour, donc il faut toujours penser à ce système de boucle dans la narration. Donc, c'est un peu spécial. Voilà.
Mais c'est vrai que, enfin, globalement, ces dernières années, c'est, je sais pas, peut-être 5 ou 7 dernières années, il y a eu énormément de roguelike et de roguelite qui sont sortis. Voilà, il y avait quand j'étais au lycée, c'était Rogue Legacy, il me semble. Le premier Spelunky, bien sûr, Isaac. Et maintenant, du coup, Hades et Spelunky 2. Et Inscription, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que Jean y a joué un peu. Si on peut qualifier ça de rogue, je ne l'ai toujours pas lancé, donc je ne saurais pas dire.
Oui, alors pour répondre à ta dernière remarque sur Inscription, oui, c'est une sorte de roguelike, enfin de roguelite, mais avec comment dire, tout un développement ensuite après narratif et un peu méta qui est réussi au début, moins sur la fin, j'ai trouvé. C'est un peu, je suis sorti du jeu un petit peu mitigé, mais en tout cas les premières heures sont vraiment très réussies. Je vous encourage au moins à essayer pour voir à quoi ça ressemble. Et sinon, pour répondre à ta première question qui était est-ce qu'on aime dans l'équipe les roguelites et roguelike, moi généralement ça me gonfle assez vite. Parce que le côté vraiment toujours recommencer la même chose me... Enfin, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais c'est tout comme. Ça peut me porter un petit peu sur les nerfs. En plus, c'est souvent des jeux qui racontent pas grand-chose, comme a pu le dire Oshi juste avant. Et c'est pour ça que le seul qui m'a vraiment mis sur le cul et vraiment passionné, c'est Hades. Parce qu'Hades, du coup, en plus d'être d'un point de vue du gameplay, d'être vraiment très très plaisant. L'univers et surtout la narration d'Hadès est absolument incroyable et du coup voilà, c'est un peu le seul qui m'est plu. Même Dead Cells, j'ai lâché très vite. Isaac, j'aime pas l'esthétique. Enfin bref, globalement ça marche jamais, mais Hadès c'est vraiment merveilleux. Et Spelunky, ouais, je regrette d'apprendre que j'ai essayé un petit peu, mais ça m'attire pas et en plus je trouve pas ça extrêmement joli. Voilà. Mais je respecte ta passion.
Mais il en faut pour tout le monde.
Exactement.
J'aime pas les roguelites, j'adore adorer un roguelite. Genre c'est vraiment un plaisir coupable ouais, c'est pas mon type de jeu. Par contre, quand il y a un jeu que je peux lancer comme ça, en me déconnectant le cerveau, etc., c'est très agréable et je suis très faible pour ça. Mais du coup, il y a de plus en plus de roguelites, enfin de, comment dire ça, de jeux narratifs qui sont un peu obligés de jeux avec des volontés narratives qui sont un peu obligés de s'adapter à la forme du roguelike. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal avec ça, et j'ai beaucoup de mal à me lancer dans ce genre de jeu. Dès qu'il y a une surcouche narrative qui est assez importante. Je sais que l'année dernière on a pas mal parlé de Wildermyth ou de Road 96, si je me trompe pas, et j'ai réussi à lancer aucun des deux alors qu'ils ont un qui m'intéresse beaucoup et qu'ils ont un certain succès critique. Donc voilà.
Moi j'aime bien moi je pense que je vais être un peu l'exception, je sais pas, mais j'aime bien les roguelites parce que je peux écouter des podcasts en même temps. Et d'ailleurs j'ai une petite reco à ce sujet, c'est Going Under, c'est un jeu qui se moque un peu des milieux start-up et des réseaux sociaux. Si vous aimez bien, bah, je vous conseille.
C'est très rigolo, Going Under, et c'est sur le Game Pass.
Voilà, parfait.
Si jamais je veux me permettre une reco, plutôt une non-reco, c'est Road 96. Personnellement, l'intention est vraiment chouette derrière, mais j'ai pas trouvé ça très très réussi. Voilà. Mais après, de toute façon, en fait non, il faut que je te recommande dans le sens où il faut que tu te fasses ta propre idée, je pense. Mais en tout cas, disons que voilà, ça serait une sorte d'avertissement, voilà, dans le sens lance-le, mais n'en attends peut-être pas trop. Voilà, à mon avis. Mais après, je serais ravi d'en discuter avec toi quand tu auras essayé.
Pas de soucis. Et oui, dans tous les cas, je le lancerai un jour où j'ai le courage. Tu m'en as pas découragé.
C'est pas vraiment une réaction, c'était juste pour vous rappeler que si vous achetez Road 96 sur Steam, normalement vous avez accès à un documentaire sur la production du jeu. Voilà, réalisé par Danny Fonseca, donc un bon copain dont on a déjà parlé dans l'émission. Voilà, voilà.
Ça c'est top, merci. Moi je pense que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que j'aime pas les roguelike roguelites, c'est pas vrai. Je suis complètement accro à Vampire Survivors ces temps-ci, donc vu que tout le monde donne ses recos, je me suis dit que j'allais donner la mienne, voilà. Ça coûte 2€, c'est pas cher.
Et c'est vraiment le phénomène, faudrait que je regarde parce que j'en entends beaucoup parler en effet. Ouais. Donc c'est vraiment aussi chouette et addictif que
c'est
qu'on
incroyable.
Le dit.
C'est incroyable. Trop addictif pour ce que c'est.
C'est ouf, je me suis déconnecté d'internet pendant une semaine et personne savait ce que c'était, genre je reviens, tout le monde y joue quoi.
C'est assez fou, oui.
Et je sais toujours pas ce que c'est du coup.
La prochaine chronique d'Alexandre, du coup, ça sera Vampire Survivors. Merci beaucoup pour ce partage, et avant de retrouver Nicolas Lopez pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale. On écoute Meridian Child, composé par Hiroki Kikuta pour Seiken Densetsu 3, mieux connu en Europe sous le titre de Trials of Mana. Bonne écoute! Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Nicolas Lopez, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Lise, et comme tu l'avais annoncé en introduction, ce soir je suis accompagné pour cet entretien par Nicolas Lopez. Salut Nicolas, et merci encore de te joindre à nous.
Salut, merci pour l'invitation.
Comme Lise l'a précisé en début d'émission, tu es chargé des relations avec les éditeurs au département son, vidéo et multimédia à la Bibliothèque nationale de France. Mmh. Et on va parler bien sûr des tenants et aboutissants de ton travail, mais aussi plus globalement de la manière dont la BNF accueille, traite, conserve et communique le jeu vidéo. Et pour commencer, en guise d'introduction, disons, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'histoire de la collection de jeux vidéo de la BNF? Quand est-ce que tout a commencé un petit peu? Et comment ça se fait d'ailleurs que l'institution se soit lancée ainsi dans la conservation du patrimoine vidéoludique?
Oui, bien sûr. Bah, du coup, comme tu l'as dit, la BNF, elle conserve du jeu vidéo. Et ceci, elle le fait depuis 1992, grâce à l'évolution de la loi sur le dépôt légal, qui s'applique depuis 1992 également aux documents multimédia. Donc c'est le code du patrimoine qui a évolué à cette date-là, donc il y a maintenant 30 ans. Et donc le dépôt légal, pour rappel, c'est l'obligation légale qui est faite aux éditeurs de déposer tout ce qui est édité sur le sol français. Et c'est très vieux, hein, le dépôt légal à la base, ça date du XVIe siècle, de François Ier, plus exactement en 1537. À la base, c'était pour contrôler toute l'édition qu'il y avait dans le royaume de France. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vertueux que ça, le dépôt légal. Hein. On n'est pas là pour contrôler les publications qui sont faites en France, mais vraiment pour archiver, pour constituer le patrimoine français. Et ce dépôt légal, il a connu pas mal d'évolutions au fil des années, au fil des siècles, pour s'adapter aux divers types de supports. Donc il y a eu, les derniers en date, c'était le son, la vidéo, et donc le multimédia en 1992. Et parce qu'en 1992, il a été estimé que le jeu vidéo, mais également tout ce qui était informatique d'une manière générale, c'était du patrimoine comme un autre.
D'un point de vue patrimonial, il faut préciser du coup que c'est une obligation légale, comme tu le précises. Donc il ne s'agit pas en fait d'une politique d'acquisition comme pourrait le faire un musée. Il y a un impératif en fait de la part de la BNF de tout conserver, enfin dans la mesure du possible bien sûr. L'intérêt c'est d'avoir de tout archiver comme tu as pu le préciser. Il n'y a pas de choix qui est fait en fait.
Nous ne sommes pas pour arbitrer de ce qui mérite d'être archivé ou pas.
Voilà.
C'est vraiment une obligation légale, donc on prend tout ce qui est édité dans la mesure du possible, comme tu l'as dit, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a pas mal d'enjeux autour du dépôt légal du jeu vidéo. Oui.
Bien sûr.
Mais après, pour rajouter sur le dépôt légal, j'ai dit que ça commençait en 1992, donc ça fait aujourd'hui 30 ans. Mais le jeu vidéo, ça date d'avant 92.
Bien
donc,
sûr.
Tu as parlé d'acquisition, que c'est pas la même chose, mais en fait, si dans un sens, on a pris la décision à la BNF et au service multimédia dont je fais partie, de compléter les collections de jeux vidéo pour qu'elles représentent le jeu vidéo avant 1992 aussi. Parce qu'en 92, on est déjà sur troisième ou quatrième génération de consoles. Et il y avait même avant les micro-ordinateurs. Et donc, c'était quand même important de pouvoir avoir dans nos collections des jeux vidéo qui sont importants pour le patrimoine et qui datent d'avant les années 90. Et également, on a pris la décision d'archiver, de faire des acquisitions de certains titres étrangers qui n'ont jamais vu le jour en France. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeux sont disponibles en France parce que tout est à la chaîne internationale. Mais à l'époque, dans les années 90 encore, il y avait beaucoup de jeux, notamment sur le territoire japonais, qui ne voyaient jamais le jour en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition d'un certain nombre de titres qu'on va dire emblématiques du jeu vidéo japonais, notamment des années 80-90, parce qu'ils n'avaient jamais vu le jeu en France, et c'était dommage d'avoir une collection de jeux vidéo qui ne prend pas en compte tout ce patrimoine-là, qui est quand même important dans l'histoire du média.
Oui, je comprends. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment deux voies d'acquisition. Du coup, il y a cette politique volontariste un petit peu pour soit acheter du jeu étranger, soit du jeu antérieur à 92, et il y a tout ce qui est dépôt légal qui là du coup, donc c'est deux canaux en fait d'acquisition un peu différents.
C'est ça.
D'accord.
Exactement.
Et en ce qui concerne du coup le dépôt légal, donc sur le papier tu l'as dit, il s'agit d'une obligation légale, d'un impératif, mais est-ce que c'est une démarche que les professionnels de l'industrie connaissent déjà, est-ce qu'ils sont au courant de ça, parce qu'on se doute que les grands éditeurs par exemple dans le domaine des livres sont parfaitement au courant de ça parce que ça fait des siècles que ça dure. Mais du côté du jeu vidéo, on peut se dire qu'il y en a certains qui ne sont pas encore tout à fait au courant. Et ensuite, est-ce que les studios sont censés s'impliquer ou est-ce que ça concerne vraiment que les éditeurs?
Alors, pour la première partie de la question, oui, aujourd'hui, si on se tourne du côté des gros éditeurs de jeux vidéo, le dépôt légal est quand même une pratique assez intégrée, qui est connue, mais parce que ça fait maintenant 30 ans qu'on le pratique. 30 ans qui paraît beaucoup, mais qui au regard de la BNF est quand même très peu, hein, parce que j'ai parlé du 16e siècle au début. Mais voilà, les gros éditeurs sont conscients du dépôt légal, mais on est quand même encore loin d'être sur une démarche qui est à 100% intégrée et automatisée, comme ça peut être le cas dans l'édition, dans le livre. Donc il y a quand même régulièrement des relances qui ont besoin d'être faites. Et il y a également un autre souci qui est assez propre au secteur du jeu vidéo, c'est le fait qu'il y a un turnover assez important dans au sein des éditeurs. Et donc, en général, on a un contact pour le dépôt légal. Mmh. Et il suffit que cette personne parte pour que, ben, on doit reprendre pas tout à zéro, mais un peu. Il faut retrouver les contacts, remettre en place toute la procédure. Ça peut prendre un peu de temps. Donc parfois, il peut y avoir des besoins de relance assez importants auprès des éditeurs. Mmh. Et donc, du coup, je parle sans arrêt d'éditeurs, ce qui répond un peu à ta deuxième question.
Bien sûr.
C'est que non, les studios sont pas forcément censés s'impliquer dans la mesure où ils sont édités par ce genre d'éditeurs. Donc dès qu'il y a du Square Enix, du Ubisoft, Capcom, Activision, Blizzard hein, anciennement, ce sont vraiment ces éditeurs qui déposent et pas les studios. Mais on peut tout à fait faire appel aux studios quand on est sur la scène indépendante.
Oui, dans le cadre d'auto-édition par exemple.
Notamment, ouais, voilà, je pense dernièrement... Prends l'exemple, on a eu le studio français Novabox qui fait des visual novels. Voilà, typiquement, c'est eux qui ont déposé. On les a contactés, ils nous ont répondu, ils nous ont envoyé les builds de leur jeu et voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Donc voilà, c'est essentiellement les éditeurs. Le message, il est quand même bien passé, mais il y a des relances assez nécessaires à faire. Et dans le cadre des studios, par contre, la pédagogie est très importante sur qu'est-ce qu'est le dépôt légal. Là, ce que je te dis sur les éditeurs, ça s'applique moins sur les studios qui découvrent en fait le dépôt légal, ou du moins ils découvrent qu'ils sont concernés par le dépôt légal.
Ouais, bien sûr, j'imagine.
Donc il y avait vraiment un travail de pédagogie important à faire sur... pédagogie, je ne dis pas ça de manière descendante, hein, pas du tout. Hein.
Non,
bien sûr. Mais c'est voilà, y a faire connaître le dépôt légal, c'est une de nos tâches et une de mes tâches notamment.
Très bien. Et est-ce qu'il y a des difficultés autres que le turnover au sein des éditeurs et ce problème de prise et de reprise de contact? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui peuvent se poser dans la manière dont voilà se mène l'activité du dépôt légal?
Tu veux dire dans les relations?
Ouais, oui, de voir que ce soit dans le relationnel ou je sais rien, juridique ou est-ce qu'il y a des difficultés propres au domaine du jeu vidéo par rapport au dépôt légal?
Il y a tout un volet technique hein, qui peut poser problème, mais peut-être qu'on va en reparler vraiment en détail après.
Alors ça, oui, pour le volet technique, on va en venir. Oui, je parlais plutôt du relationnel. C'est vrai que du coup, le volet technique, on va y venir juste après, en effet. Mais du coup, côté relationnel, si ce n'est... est-ce qu'il n'y a pas un peu de méfiance de la part de gros éditeurs, notamment, oui, de se dire, est-ce que voilà...
Tout à fait. Alors, il y a effectivement, t'as dit le mot clé, c'est la méfiance. parfois les éditeurs peuvent penser que ils peuvent se demander ce qu'on va faire des jeux parce qu'ils vont se dire voilà, pourquoi j'irais envoyer mon jeu gratuitement, mon jeu qui est commercialisé à 70 euros, pourquoi la BNF aurait un exemplaire gratuit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur un point que j'ai pas abordé au début quand j'ai parlé du dépôt légal, c'est que on n'a pas vocation, tous les jeux qu'on fait rentrer dans nos collections, on n'a pas vocation à les exploiter. Le but de la BNF, c'est vraiment de conserver, donc pour constituer le patrimoine, mais également de signaler, c'est-à-dire de me référencer dans un catalogue, et également de communiquer, mais à un public restreint. Les collections de la BNF, elles sont destinées à un public de chercheurs accrédités. Après, chercheur, c'est un terme un peu restreint, ça peut être tout à fait... des journalistes qui ont besoin de faire une recherche. Voilà, il faut témoigner d'une recherche sur un jeu spécifique pour pouvoir le consulter. Donc vraiment, les jeux qu'on a au titre du dépôt légal n'ont pas vocation à être communiqués
en libre accès, n'importe quand, n'importe qui.
C'est pas du libre accès, il n'y a aucune monétisation autour de ça, bien entendu. Donc voilà, donc le travail qu'on peut faire auprès des éditeurs, quand je parle de pédagogie, c'est aussi ça, c'est rassurer, rappeler ce que sont les missions de la BNF pour qu'ils aient une totale confiance en nous et qu'ils aient bien conscience que nous, on est là, on est un coffre-fort en fait, on n'est pas du tout là pour exploiter quoi que ce soit.
Après voilà,
c'est vrai que voilà, c'est un point important.
Après, ça reste quand même accessible, comme tu le dis, parce que pour moi-même, l'avoir avoir pratiqué la BNF, c'est vrai que c'est certes, faut être... faut expliquer qu'on a une recherche, à faire à la BNF, mais c'est très très large et j'ai pu consulter des documents sans moi-même être chercheur parce que je travaillais sur un petit article, parce que je pour tel objectif et puis voilà quoi.
Exactement, la BNF peut avoir un peu cette image du... Voilà, mais en fait, bien sûr, on est ouvert au public. À partir du moment où on explique pourquoi on veut consulter un document, on y donne accès, hein, mais c'est juste, voilà.
Oui, ça peut faire un peu peur.
Ça peut être intimidant, voilà, c'est vrai.
Bien sûr, ouais. Mais oui, c'est une institution très grosse et très ancienne, ça peut effrayer au début quand on ne connaît pas trop. Ensuite, donc, pour ce qui est de la suite, une fois que les jeux sont arrivés à la BNF par le biais du dépôt légal, qu'est-ce qui se passe ? Comment les jeux sont classés, catalogués, et surtout dans quelles conditions ensuite ils sont conservés ? Est-ce qu'on retrouve des moyens de conservation propres, enfin, qui peuvent aussi correspondre aux ouvrages écrits, par exemple, ou est-ce qu'il y a vraiment des conditions spécifiques de conservation du jeu vidéo, des jeux vidéo, suivant les supports aussi, à la BNF ?
Les jeux vidéo suivent une chaîne d'entrée qui est assez classique, hein, à la BNF. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, vraiment, ce serait pas intéressant de tout détailler là. Ce sont des process internes que je t'épargnerai.
D'accord, pas de souci. Je te laisse sélectionner les détails pertinents.
En gros, pour la faire courte, les jeux vidéo arrivent et ils sont accompagnés d'une petite déclaration qui apporte une sorte de... des déclarations qui permettent d'avoir quelques métadonnées sur les jeux, donc qui permettent d'avoir des informations avec laquelle on peut faire une première notice, une notice bibliographique. Mmh. Qui permet de référencer tout simplement les jeux. Et ensuite, les jeux qu'on a reçus, on les rentre dans les magasins de la bibliothèque qui sont situés dans les sous-sols du site François Mitterrand, donc en dessous des quatre grandes tours. Et on a, pour le jeu vidéo, on a deux magasins, deux espaces où on range du jeu vidéo. Et c'est là qu'on met notre collection de maintenant près de 20 000 jeux vidéo. Et les jeux, ils sont conditionnés dans des boîtes de regroupement, format DVD. Alors, c'est un peu dur à expliquer comme ça. En podcast, c'est mieux de le montrer. Hein. Mais c'est des boîtes format DVD en termes de hauteur. Et, elles font en largeur à peu près 30-35 cm. Donc, ça permet de mettre un certain nombre de jeux dedans. Mais il y a également des formats hors normes. Dans le jeu vidéo, tout ce qui est édition collector de jeux, les jeux fournis avec des accessoires comme des guitares, des balances Wii Fit, ou même des vélos d'appartement, il y a eu. Ouais.
Des choses pratiques et conservées.
On a ça chez nous, hein, parce que ça a été édité en France, donc on prend. Mais forcément, les boîtes format DVD, tu te doutes bien, on ne met pas un vélo dedans. Hein.
Bien sûr.
Donc pour ça, on a un service à la BNF qu'on conçoit des boîtes sur mesure. Donc on leur donne les dimensions et ils nous conçoivent des boîtes pour vraiment que les jeux soient, pour que le packaging des jeux même soit conservé comme il faut. Parce qu'on estime que le packaging des jeux en boîte sont des objets intéressants en soi, hein, qu'ils peuvent faire l'objet de recherche pour les chercheurs.
Ouais. Oui, le péritexte est très important dans le jeu vidéo. Et tout ce qui est manuel, boîte, visuel de communication et de promotion, c'est hyper intéressant aussi à étudier. C'est important du coup que la BNF le conserve.
C'est ça, c'est pour ça que notamment on a une grosse collection de Skylander. On a bien souvent montré ça parce qu'il y en a eu une flopée à une époque et on les a tous. Et à chaque fois, c'est vraiment fait du sur-mesure. Hein. On a les boîtes d'origine avec les figurines qui sont mises à part, mais toujours dans la boîte. C'est assez impressionnant à voir tout le travail qui a été fait là-dessus.
Et est-ce que les jeux sont classés comment ? Ils sont classés par ordre de parution, par support ? Est-ce qu'il y a les cartouches d'abord et puis les DVD ensuite ? Comment ça se passe plus ou moins ? Ou c'est par ordre d'entrée aussi dans les collections ?
Ils sont classés, déjà on complète au fil des arrivées, hein, mais ils sont rangés par support. On a des boîtes avec les supports les plus anciens, comme les cartouches ou les premières disquettes. On a même des disquettes 5 1/4 de l'Apple II, par exemple. Mais aujourd'hui, le support principal, c'est le support optique. Et on les range comme ça. Et il y a d'ailleurs, ils ont des cotes avec des appellations bien de chez nous qui permettent en interne d'identifier qu'est-ce qui est de la disquette, qu'est-ce qui est de la cartouche, qu'est-ce qui est du disque optique.
D'accord, ok. Donc à la cote, on sait déjà ce qu'on va trouver dans la boîte.
Ouais, exactement.
D'accord. Et donc après, Le jeu vidéo est une technologie qui... Enfin, comment dire ? La technologie du jeu vidéo avance très vite. C'est un secteur en évolution rapide. Surtout qu'en plus, il y a souvent une certaine frange de l'industrie un petit peu branchée sur le côté la technologie et les nouveautés technologiques vont révolutionner le jeu vidéo. Donc, le dernier en date, c'est la VR, par exemple. Bref, la technologie va très vite dans le secteur. Et depuis quelques années maintenant, certains jeux, beaucoup de jeux même, ne sont disponibles que sous forme dématérialisée. Donc là, on pense à Steam et puis à ce genre de plateforme. Que se passe-t-il dans ce cas-là à la BNF ? Est-ce que la BNF conserve aussi le dématérialisé, et dans l'idéal, qu'est-ce que la BNF veut conserver ? Est-ce que c'est l'ensemble des fichiers du jeu ? Est-ce que c'est un code source ? Est-ce que c'est un exécutable ? Qu'est-ce que la BNF peut faire dans ce genre de cas ?
Bien sûr. Donc la première question, oui, on prend aussi le dématérialisé, bien entendu, parce que sinon on signe notre arrêt de mort dans les années à venir. Hein. donc oui, ça, le dématérialisé fait partie de ce qu'on prend au dépôt légal, dans la mesure du possible, bien entendu, parce que ça pose de nombreuses contraintes techniques. Tu le sais bien, j'imagine que le dématérialisé s'accompagne de nombreuses mesures de protection, les DRM,
les
protections anti-copie, voilà. Et ça, c'est un frein à la préservation. Ça n'empêche pas de recevoir des fichiers, les DRM. C'est juste que si on reçoit des fichiers verrouillés, on ne peut rien en faire derrière. On ne pourra pas avoir la garantie de les rejouer dans 15, 20, 30 années. Et nous, tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'avoir des versions aussi ouvertes possible pour qu'on puisse les jouer en local à la BNF. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeux dématérialisés qui ont besoin d'une sorte d'identification à une plateforme pour pouvoir être lancés.
Bien sûr.
C'est notamment le cas de tous les jeux vidéo dématérialisés sur les stores des consoles de jeux. Donc les Nintendo eShop, PlayStation, tout ça, ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les jeux PC c'est plus simple, les jeux aussi mobiles c'est assez avec les versions Android, c'est assez simple à récupérer.
D'accord.
Et à conserver de manière pérenne. Et la question suivante, c'est nous, ce qu'on veut, c'est avoir des versions exécutables. Exactement. Ou alors, si ça ne peut pas être l'exécutable, au moins une build très proche du contenu final.
D'accord.
De ce qui a été publié.
D'accord.
Voilà.
D'accord, très bien. Parce que quand on vous envoie ça, après vous... Comment je vais dire une énormité, je pense, mais imaginons qu'on vous envoie une version exécutable d'un jeu sans DRM. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous la copiez-collez sur un disque dur que vous rangez et comment ça se passe ? Est-ce que... Sans rentrer trop dans la technique, si jamais c'est possible, bien sûr.
Bon, je vais faire simple, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais j'ai parlé tout à l'heure de magasins dans lesquels on mettait nos jeux physiques.
Bien sûr.
Et on a également ce qu'on peut appeler un magasin numérique.
D'accord.
Qui a un petit nom, SPAR, SPAR, pour Système de Préservation et d'Archivage Réparti.
Okay.
Et c'est là-dedans qu'on verse tout ce qui est... toutes nos ressources numériques.
D'accord.
Voilà. Il n'y a pas que du jeu vidéo là-dedans, bien entendu. Hein. C'est commun à toute la BNF, mais ça fait partie de ce... C'est là-dedans. C'est dans cet espace qu'on verse les jeux vidéo numériques.
D'accord.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on n'avait pas abordé dans ces questions de... Dans ce, comment dire, par rapport aux questions de conservation, on n'avait pas abordé ce sujet qui était celui de la numérisation, parce qu'au-delà de conserver bien sûr de manière numérique des jeux dématérialisés, vous conservez aussi les jeux en physique en numérisé, en plus de leur version physique, si jamais je ne dis pas de bêtises.
Oui, tu as tout à fait raison. C'est parce qu'on fait ça, on numérise tout, on copie tout, parce qu'on sait que le jeu vidéo n'est pas... on sait qu'il y a de l'obsolescence dans le jeu vidéo, aussi bien sur les supports que sur les appareils de lecture, donc les PC, les consoles. Enfin, on le sait bien, je pense qu'on en a tous fait l'expérience de vieilles machines qui ne marchent plus ou de jeux qui ne veulent plus se lire. Les disques optiques notamment, parfois ça a une durée de vie assez faible. Hein. Et sachant cela, et sachant qu'on n'a pas la vocation à sans cesse réparer les machines que l'on a, machines qui par ailleurs, je fais une petite parenthèse, les machines, ne sont pas soumises au dépôt légal. Mmh, hein. D'où, nous, on collecte le software, mais le hardware, c'est nous qui en faisons l'acquisition avec un budget qu'on a chaque année. Mmh. On fait des acquisitions de nouveaux matériels. Je ferme la parenthèse. Et du coup, j'ai perdu mon fil.
La numérisation des jeux, des jeux physiques.
Oui, on numérise tout parce qu'on sait qu'il y a cette obsolescence des machines et du support. Et on vise, nous, une pérennité, une pérennité totale. Donc, on veut pouvoir rejouer nos jeux dans très longtemps. Mm-hmm. Et pour ça, on ne peut que passer par la numérisation et le fait de rejouer derrière via l'émulation.
Mmh, voilà,
parfois, ça fait un peu grincer les dents qu'on fasse de l'émulation à la BNF, mais c'est vraiment essentiel pour nous. Et ce qui n'empêche pas d'avoir les versions physiques dans les magasins à consulter également.
Bien sûr. Une autre difficulté par rapport à la conservation du jeu vidéo, c'est celle, j'imagine, des jeux en ligne. Et je pense notamment, bien sûr, à tout ce qui va être jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, type World of Warcraft et consorts. Puisqu'un jour ou l'autre, ces jeux sont moins joués, sont obsolètes, j'en sais rien, par exemple, le studio ou l'éditeur fait faillite et racheté, enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte. Bref, un jour ou l'autre, les serveurs de ces jeux vont être fermés, et inévitablement, ces jeux du coup ne vont plus marcher. Comment du coup conserver ce genre de jeu?
Bah, c'est la grande question en fait. Hein. Et oui, le cas du MMORPG, c'est finalement le plus ancien et qui illustre bien le problème, c'est que ces jeux, c'est un peu des... Alors, je ne veux pas être insultant, loin de là, mais c'est un peu des coquilles vides, dans le sens où si elles ne sont plus hébergées, le jeu, on a beau l'avoir, quand on le lancera plus tard, il n'y aura rien dedans. Mmh. Et voilà. Donc, nous, on est bien conscients du problème et on ne peut pas on peut pas dire à Activision, Blizzard, enfin Microsoft maintenant, à World of Warcraft, merci de nous donner tous les éléments pour qu'on puisse reproduire le serveur, enfin pour qu'on puisse refaire l'hébergement du jeu en ligne, chez nous à la BNF, c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, on planche sur un projet d'archives de la jouabilité qui concerne en fait la préservation des pratiques des joueurs de jeux vidéo. Et en fait, l'idée, c'est de documenter ces jeux vidéo, de passer par des documents annexes. Alors, essentiellement, des enregistrements vidéo, comme des captations, des let's play, des solus vidéo, des speedruns même.
D'accord.
Mais également, et là, c'est là que c'est intéressant qu'on a une certaine plus-value à la BNF, la documentation sur le jeu vidéo. Donc, ça peut être les matériels d'accompagnement des jeux, des monographies qui ont été publiées sur des jeux, des périodiques, des articles, toute la presse spécialisée, vu que la BNF, elle a un département presse qui capte tout ce qui est édité, publié chaque jour. Bah, de fait, on a des ressources, on a toutes les ressources presse qui existent sur les jeux. Donc il y a plein d'autres choses comme ça. Et donc c'est encore un projet vraiment en cours. Hein, et il n'est pas en place, mais on y travaille. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que grâce au dépôt légal, la BNF, elle collecte déjà un grand nombre de tous ces documents que je viens de citer. Mmh. Mais aujourd'hui, ces documents sont dispersés entre plusieurs départements et plusieurs services. Donc, il y a tout un travail de regroupement à faire pour créer des corpus assez complets et cohérents autour des jeux.
Oui, je comprends. Oui, en fait, ça serait pour ces jeux, du coup, compliqué à conserver en eux-mêmes et pour même conserver l'expérience de jeu. Parce que même si on peut faire tourner, par exemple, je ne sais pas, dans un MMO dont les serveurs sont fermés en émulant un serveur privé, je ne sais pas, on se retrouve seul dans l'univers et jeu n'est pas censé fonctionner comme ça. Donc, pour ce genre de jeu, le but serait donc de créer une sorte de mosaïque de documents et d'archives pour donner à voir et à comprendre ce qu'était le jeu et ce que c'était que de jouer à ce jeu à l'époque où il est sorti. C'est ça l'objectif.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que comme tu dis, si on arrive à reproduire le serveur, à réhéberger le jeu comme il faut, comme tu dis, il n'y aura personne dedans, ou alors trois joueurs, et ça ne reflète absolument pas la réalité de ce jeu aujourd'hui. Donc, et j'irais même plus loin, en fait, les difficultés que tu évoques avec ces jeux en ligne, ça va au-delà du jeu en ligne, parce que avec le numérique, le tout dématérialisé, c'est même la notion de qu'est-ce qui est un jeu,
qu'est-ce qu'est une œuvre finie aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tous les jeux qui sortent ont des patchs, des mises à jour, parfois très nombreuses et très volumineuses. Et même, on a systématiquement un patch day one à la sortie d'un jeu, qui rend presque obsolète la version physique, comme on dit vanilla, d'un jeu. Et ça pose voilà, des questions sur la définition même de ce qu'est un jeu vidéo en tant qu'œuvre finie. Et, mais bon, après, ça n'empêche pas de collecter tout ce qui sort, hein, mais... voilà, ça pose des questions. Je pense notamment à tous les jeux, par exemple, tous les jeux de combat qu'on peut avoir, les Street Fighter, les Tekken. Aujourd'hui, tu prends Tekken 7, par exemple. Je prends l'exemple parce que c'est un jeu auquel je joue beaucoup. moi, j'y joue depuis 4 ans et demi. Le jeu, aujourd'hui, c'est pas le même. Ouais. Et pourtant, bah, le jeu qu'on a dans les collections de la BNF, c'est la version qui est sortie en 2017, qui avait moins de personnages, moins de modes de jeu, moins de subtilité dans le gameplay. Enfin, voilà. Et du coup, ça pose plein de questions.
Oui, j'imagine que oui, là, ça doit être compliqué d'envisager toutes
C'est pour ça que ces archives de la jouabilité sont importantes.
Oui, oui, non, moi j'imagine bien. Du coup, maintenant pour en guise de conclusion, maintenant, ces jeux sont conservés alors du mieux possible avec de nouvelles innovations du côté de la BNF d'année en année. Et ces jeux conservés. Que ce soit par le biais du dépôt légal ou par le biais de l'acquisition volontaire, quelles sont les différentes modalités de consultation qui sont possibles à la BNF pour pouvoir du coup jouer à ces jeux ou en tout cas se renseigner à leur sujet, les consulter, tout ça.
Alors, je vais du coup repasser par une petite présentation de comment fonctionne la BNF pour le public. Et la BNF, elle est divisée en deux grands espaces. Et quand on entre à la BNF, on est dans ce qu'on appelle le haut de jardin, parce que bah, ça domine un jardin qui est en contrebas. Et là, ce haut de jardin est composé de plusieurs salles thématiques, salles dans lesquelles on ne consulte pas les collections du dépôt légal, mais vraiment des collections acquises par des acquisitions comme ne le ferait n'importe quelle médiathèque.
D'accord.
Et quand on va au Red Jardin, donc au dernier sous-sol de la BNF, là, on a accès à la bibliothèque de recherche. Et c'est ici qu'on peut consulter toutes les collections du dépôt légal et donc la collection de jeux vidéo. Et pour la collection de jeux vidéo, il faut aller dans la salle P, qui est au niveau L1. Et on y consulte les jeux en faisant des réservations. C'est pas de l'accès libre. On va pas se servir dans les allées, dans les épis pour prendre un jeu. On passe par le catalogue général, on fait une commande avec notre numéro, et ensuite il y a nos équipes qui se chargent de charger le jeu sur un poste dédié, parce que comme j'ai dit juste avant, on numérise tout. Donc ce qu'on donne à consulter au public en salle P, donc dans la bibliothèque de recherche, ce sont les versions numérisé.
Bien sûr.
Donc on va passer par des émulateurs pour les jeux les plus anciens. Les seuls jeux qu'on va mettre sur les vrais supports, enfin les supports d'origine, c'est les jeux les plus récents.
Bien sûr.
On a des consoles PS4, Xbox, je crois qu'on a encore aussi la précédente génération PS3 et Xbox 360, mais au-delà, on est sur de l'émulation. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour la salle P, pour consulter la collection de jeux vidéo qu'on a au titre du dépôt légal. Et sinon, bah, j'ai parlé au début du haut de jardin. Donc là, c'est la salle A quand on entre à la BNF. Et comme j'ai dit, c'est comme une médiathèque avec des acquisitions qu'on fait avec des droits de diffusion dans l'espace public.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, dans cette salle, elle est pensée comme une vitrine de toutes les collections qu'on a à la BNF.
Okay.
Et c'est pour ça qu'on a un échantillon finalement qui représente le jeu vidéo d'une manière dans sa globalité et sur des consoles actuelles. Là pour le coup, on a plusieurs consoles. On a deux PS4, une Xbox One, deux Switch, une PS3, une Wii U, également une Super NES Mini, ce qui permet d'avoir un petit peu de jeu rétro quand même dans cette salle. Et on a des PC, des tablettes pour les jeux mobiles et également deux postes de réalité virtuelle.
D'accord. Oui, donc il y a quand même une offre, voilà. Une offre en accès libre, entre guillemets, qui est assez, assez développée, quoi.
Tout à fait, elle est développée. Et en plus, on fait un roulement du catalogue deux fois par an à peu près, on renouvelle notre offre pour rajouter et enlever certains jeux, et donc ça permet d'avoir quand même suffisamment de nouveautés, d'être à jour et de bien représenter le jeu vidéo dans cette salle. Et jeu vidéo et le multimédia de manière générale, parce que comme je disais, il y a de la réalité virtuelle, et moi je travaille aussi beaucoup sur la réalité virtuelle.
Et ça, c'est un autre sujet. Et nous te réinviterons peut-être pour en parler. Mais puisque cet entretien touche à sa fin, mais pour conclure cet entretien, il va y avoir notre deuxième pause musicale de l'émission. Et comme d'habitude, c'est notre invité qui a choisi le morceau de cette deuxième pause musicale. Il s'agit de A Song From Our Memory de Nobuo Uematsu, qui est tiré de la bande-son de Final Fantasy IX. Pourquoi ce choix, Nicolas, du morceau ?
Alors, plusieurs raisons. D'une, c'est parce que Final Fantasy IX, c'est un des opus que je préfère de la licence, qui est une licence que j'adore. Hein. Moi, j'ai été bercé par le JRPG quand j'étais plus jeune. Et je trouve qu'on parle pas assez du 9, on parle toujours du 7, on parle toujours du 6 ou du 10, mais le 9 il passe un petit peu à la trappe, et je trouve ça dommage, notamment parce que je trouve que c'est la plus belle bande son de toute la saga. Voilà, ça n'engage que moi, mais je persiste les signes pour le dire. Et donc voilà, je trouve que c'est toujours bien de mettre en avant cette bande son. Et de deux, je choisis ce morceau en particulier parce que je suis jeune papa depuis quelques mois. Et ce morceau tout doux, je le fais écouter à ma fille, et il se trouve que ça marche bien pour l'endormir, et qu'elle aime bien cette chanson, et qu'elle arrive à la reconnaître maintenant. Donc voilà, je trouve ça merveilleux de pouvoir transmettre ça dès maintenant à ma fille qui n'a que quelques mois. Voilà, papa qui transmet les musiques qu'il écoutait quand il avait 12-13 ans, je trouve ça beau.
C'est ça, il faut s'y prendre dès le berceau, t'as tout à fait raison. Et encore une fois, merci à toi d'avoir participé à l'émission.
Merci Nicolas, merci Jean pour cet entretien. C'est maintenant au tour de H de prendre le micro.
Merci Lys. Ce mois-ci, je voulais vous parler de compassion. Parce qu'on entend beaucoup parler des jeux comme un média qui permettrait d'établir de la compassion comme aucun autre, qui pourrait, plus qu'aucun autre, nous faire voir à travers les yeux de quelqu'un, nous mettre dans les chaussures de quelqu'un. C'est d'ailleurs la formule que reprend l'expressif Game Lab, projet de Game Studies franco-suisse, sur son site. Seulement, cette idée de compassion dans le jeu vidéo, elle a été violemment critiquée. Une critique qui venait surtout de créateuristes de jeux et d'universitaires queer américains, comme Anna Entropy, Matty Bryce, Robert Young ou Teddy Pozo. On mettra les liens de leurs écrits sur la page. C'est d'ailleurs un peu dommage que le corpus de l'Expressive Game Lab ne contienne pas de jeux queer, alors que c'est l'un des domaines les plus foisonnants en termes de récit de soi, et qu'il soit aussi passé à côté de toute cette critique. Mais bon, bien grande tâche de forcer trois mecs blancs à écouter des trans et des homos. Bref, parlons compassion. En 2017 est sorti Enterre-moi mon amour, un exemple typique de ces jeux d'empathie, de compassion. Le jeu vous met dans le rôle d'un homme syrien, Majd, dont la compagne Nour décide d'émigrer vers l'Europe, et vous la suivrez et la conseillerez tout au long de son voyage via WhatsApp. J'ai lancé le jeu avec un certain affect. Mon père est un émigré syrien, et la moitié de ma famille y vivait encore au début de la guerre. Sauf que, dès les premières minutes, quelque chose m'a marqué. Nour et Majd parlaient comme des blancs. Leur façon d'échanger, de marquer leur attention, de s'aimer, n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu dans ma famille. Et plus qu'autre chose, elle ressemblait à une romance bien franco-française, à la Valérian et l'Auréline. Et ça, c'est loin d'être anecdotique. Premièrement, en termes de politique sexuelle, on utilise toujours le bel amour à la française quand il faut parler d'une relation touchante, tandis que nos manières locales restent confinées aux représentations négatives. Mais surtout, ça révèle que le sujet de la compassion, il est toujours blanc, et que son objet est autre. Je compatis avec les Arabes, les trans, les Andis. Ce jeu qui essaye d'être invisible, il est blanc, cis, valide. En termes, moi, mon amour se voit comme un message universel, mais clairement, il ne s'adressait pas à moi. Ce n'est pas qu'une question d'intention. En 2012, Anna Entropy, célèbre créatrice de jeux vidéo, postait sur Internet Dysphoria, court jeu autobiographique racontant le début de sa transition. Puis le retirait d'Internet quelques années plus tard. Le jeu était destiné à faire sourire d'autres personnes trans de sa communauté. Sauf que les cis en avaient fait une grande référence du jeu qui fait compatir. Plutôt que de trouver de la solidarité chez des semblables, ceux qui la voyaient différente imposaient leur compassion. Son jeu est devenu Empathy Machine, c'est ça qui a lancé la vague de critiques de la compassion, Teddy Pozzo le raconte très bien dans son article. Ce qu'on voit dans ces deux exemples, c'est que la compassion consolide l'autre comme autre, et inversement, elle consolide notre propre position blanche cis, de sujet, comme une position non marquée, invisible, universelle. Et il est là le plaisir de compatir. En gros, on lance son jeu de compassion, on compatit, et on se félicite d'être un peu plus colorblind, un peu plus déconstruit. Comme si ça pouvait au final effacer notre position. Plutôt que de chercher à remettre en question, à mettre à bas les institutions qui créent ces positions. On se dit qu'on est quand même quelqu'un de sacrément bien, parce qu'on sait aller au-delà de ces différences créées par le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat. On est heureux de ces différences dont on se nourrit. Bell Hooks parlait de « manger l'autre ». Plutôt que de les questionner, de les abattre. Pensez-y, c'est un plaisir qui ne va que dans un sens. Personne n'a l'audace de nous demander de compatir avec nos oppresseurs, à part peut-être dans le féminisme. Le plaisir que l'on prend à compatir, c'est le plaisir de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre quelques instants, puis d'en ressortir. Comme disait Robert Young, si vous marchez dans les chaussures de quelqu'un d'autre, c'est que vous les avez volées. De se sentir très humain, parce qu'on trouve que les pauvres trans sont des pauvres trans, les pauvres arabes sont des pauvres arabes, et pas faire grand-chose de plus. On n'a pas besoin de conforter les blancs dans leur blanchité, les cis dans leur cissexualité. On a besoin d'œuvres qui les confrontent, qui dérangent cette blanchité, qui exposent les différences comme des relations de pouvoir, pour créer de la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Bah, le quotidien d'une meuf trans, par exemple, il ressemble bien plus au harcèlement dans les transports, aux entrepôts Amazon parce qu'il faut bien taffer quand on est exclu de partout, qu'à l'attente d'une ordonnance chez l'endocrino. Camille Lupo, de Dupin et des Roses, racontait qu'elle avait bossé dans un McDo d'air d'autoroute avec zéro hétéro, les gays et les trans en cuisine, les butch pour encaisser les routiers. C'est un exemple que je trouve assez parlant, parce que là, d'un coup, ça nous semble plus proche. Là, on se dit « Ah ouais, aider les meufs trans, c'est peut-être pas juste me dire que je serais gentil si un beau jour j'en croise une dans la rue, c'est peut-être aussi me battre pour les salaires, les droits du travail, l'accès aux hormones, contre les violences sexistes, etc. » Si on se focus plus sur les meufs trans en salle d'attente que celles en cuisine de McDo, si on se passionne plus pour les Arabes qui émigrent que pour les expériences politiques du Rojava, c'est parce qu'on veut fétichiser des moments qui ne ressemblent pas aux nôtres, des moments où l'autre est complètement autre, où il est uniquement victime, passif, pas d'agentivité, il ne menace pas notre position de sujet. Bref, on se sent bien d'avoir compati, et on file voter à la primaire populaire plutôt que de créer des solidarités à l'extrême gauche. Bref, adieu la compassion, vive les solidarités.
Merci beaucoup pour ta chronique. Moi j'ai plusieurs questions pour toi. La première, c'est est-ce que pour toi les jeux ne devraient pas communiquer de la compassion ? Est-ce que tu penses que c'est inutile ?
Pas forcément. Là, je le regarde vraiment sous un angle politique et sous la façon dont on amène. Enfin, oui, voilà, dont je sais pas comment dire ça. En gros, pour moi, je vois la solidarité comme une espèce de de compassion, mais où au lieu de garder cette différence très claire de ah je compatis avec quelqu'un qui est très différent de moi parce que on est tous humains et pas et vraiment avec le on est vraiment pas différent du tout alors que plutôt que de se dire ah on va œuvrer ensemble contre des systèmes, c'est je pense qu'on peut retrouver de la compassion et de la meilleure compassion dans la solidarité. C'est plus ça que je veux dire que il faut tous se détester. Évidemment, c'est pas ça.
Et est-ce que tu penses que tu aurais eu un avis différent sur Enterre-moi mon amour si la romance entre Noor et son mari avait été plus proche de ta réalité personnelle?
Oui, voilà, sur plein de plans, ça aurait été vraiment mieux. Basiquement, quand on voit un peu plus nos manières d'aimer, dans tous les couples qu'il y avait dans ma famille, ça aurait donné une meilleure image, etc. Enfin voilà, sur plein de points, ça aurait été mieux. Je pense que ça aurait pas complètement changé sur la question de la compassion. Je pense que c'est pas le cœur du problème, c'est plus un point de départ pour marquer ça.
D'accord, merci.
En fait, j'avais eu entendu quelque chose sur les représentations et où il y avait cette notion d'empathie et de projection, et que du coup, avec la projection, parfois on pouvait... ça revenait plus sur le début de ta chronique où on projette un peu des biais, ses propres biais en fait sur quelqu'un qui est différent, et que du coup ça permet pas vraiment de voir l'aspect solidarité qu'on peut développer derrière, je pense. Enfin, je sais pas si c'est très pertinent, mais ça me faisait penser à ça.
En vrai, mon point est pas spécialement sur le. Je pense clairement qu'on peut se projeter quelques instants, et je pense que mon point il est un peu au-delà du jeu, de se dire ok, on s'est projeté dans le jeu d'une façon ou d'une autre, et d'ailleurs ça arrive avec beaucoup d'autres, mais je pense qu'on en a parlé beaucoup dans le jeu vidéo parce que c'était une preuve que, enfin c'était une façon dont le jeu vidéo pouvait être un art, etc. et ça a un peu explosé là-dessus, ce qui est pas bête. Mais voilà, mon point c'est vraiment au-delà du jeu vidéo, une fois qu'on est sorti de là, est-ce que ça produit vraiment quelque chose, et est-ce qu'on peut pas produire plus en termes politiques plutôt en partant de jeux qui refusent la compassion ou qui en tout cas la confrontent d'une autre manière.
On approche de la fin de l'émission avec le blind test. Ce mois-ci, c'est toi Alex qui va tester nos connaissances musicales. Sur quel thème tu vas nous interroger aujourd'hui ?
Aujourd'hui, puisque la dernière fois c'était donc heureusement que c'est beau parce que c'est nul, on va partir sur c'est nul mais la musique est cool. Et on va partir tout de suite avec le premier extrait d'un jeu japonais.
Je dirais un jeu Zelda.
Zelda, c'est pas moche.
Non, mais là, c'est nul. C'est pas que c'est moche, c'est nul.
Ah oui. Zelda, c'est pas nul.
Zelda, c'est rarement nul.
Zelda, CDI, c'est moche.
Je se connais pas du tout.
Certains Zelda sont nuls aussi.
On a le droit à une année ?
Une année, je sais plus, 2001, 2002 ? 2002.
Oh, j'ai pas du tout.
Le héros est en short.
Super.
Final Fantasy X ?
Oui, exactement.
Ouf.
Non.
Vache.
Wow.
Joli.
Si, si, absolument.
J'y ai pas joué, c'était pas un avis.
Bien joué, H.
Félicitations.
Bravo, ouais. Très joli coup.
Par contre, je suis choquée là de ce choix.
De toute façon, un héros en short, c'est Nomura, je sais pas.
Moi, j'ai failli dire Beyblade, mais... hein, donc...
Et du coup, ouais, FF10, c'est un jeu dont j'adore la musique. Je pense que c'est une musique qui m'a accompagné... pendant toute mon adolescence, à des points plus ou moins extrêmes, mais qui est un jeu qu'en fait je trouve juste pas très bien. Voilà, enfin, moi les jeux avec des combats aléatoires tous les 10 mètres, bah oui, je trouve ça chiant. La musique des combats, c'est la seule peut-être qui est chiante comme la mort et qu'on entend pendant tout le jeu. Ça, plus le fait que mon CD rayé ne fonctionnait plus après un certain point, donc du coup, je l'ai jamais fini. Voilà, mon histoire avec FF10. Mais deuxième morceau, deuxième jeu japonais. Je suis désolé, Jean.
Non, c'est pas grave.
Et deuxième jeu un peu nul.
Ça ressemble à du Castlevania.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Du coup, ouais, j'ai envie de dire oui, mais lequel ?
Là, pareil, il y en a plein. Pff, compliqué, hein.
C'est pas Simon's quelque chose ?
Non.
J'en connais que deux, je crois, des titres complets, genre y a Portrait of Ruin.
Non.
Et... Harmony of Despair, non, c'est pas ça?
Non plus.
Bon bah voilà, c'est les deux que je connaissais.
Sorti en 97.
97. C'est pas Symphony of the Night?
Oui, si.
Oh là là.
Exactement.
Bien
bravo.
Joué.
Bravo aussi. Castlevania Symphony of the Night, donc oui, sorti en 97, qui est un peu ce jeu culte. Moi, j'ai passé globalement mon adolescence. On me disait, quoi, mais t'aimes le jeu vidéo, mais joue à Castlevania Symphony of the Night. Tu vas voir, c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Du coup, j'y ai joué l'année dernière, du coup, puisqu'on est en 2022. Je l'ai terminé, et c'était en fait très long et pas très rigolo, parce qu'à un certain point. Voilà, moi, les jeux où il faut faire des allers-retours, j'ai horreur de ça. C'est notamment pour ça que j'aime pas Hollow Knight, que j'aurais pu mettre à la place de Castlevania, mais bon, j'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Et du coup, notamment donc la bibliothèque, qui était donc la musique que je vous ai passée là, où j'ai dû rester bloqué peut-être bien une heure et demie à essayer de chercher où est-ce qu'il fallait que j'aille, parce que forcément il y a des indications nulle part. Et voilà, mais super jeu, hein, un jeu culte, vraiment. Jouez-y, c'est merveilleux.
Beaucoup d'amour.
Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vidéo, hein. Je dirais pas comme ça, mais...
Mais pas les jeux vidéo.
Exactement. Troisième morceau, et pas des moindres, on change de continent pour aller en Amérique.
Skyrim.
Non.
Non, ça doit être genre Morrowind ou Arena ou...
Non plus.
Ah.
Mais je vois l'influence.
C'est quoi ce truc? God of War?
Oui.
Oh là là.
Le truc qui est piqué, oui. Et tout.
Bien vu.
Et c'est le premier ou c'est genre... Enfin, il y a un...
C'est le God of War 2018.
Ah
ouais.
Ok.
Donc le jeu de Santa Monica. Dont, pareil,
on adore les takes d'Alexandre.
Ouais, c'est quoi vraiment le
blind test de
take. Qui flingue tout. Très violente.
Ah non, mais en fait, j'adore la musique, mais le jeu est pas très bien, quoi. Enfin...
J'ai pas joué, je peux pas te dire, mais c'est juste que je sais qu'il est pas mal.
Enfin, en fait,
les gens l'aiment bien.
En fait, je trouvais le jeu bien jusqu'à deux moments différents. Le premier, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait trois ennemis dans le jeu et que c'était des skins différents à chaque fois. Et qu'en gros, quand la couleur de l'ennemi changeait, c'est qu'il avait plus de points de vie. Enfin, bref. Ça m'a déjà un peu saoulé. Et le deuxième truc vraiment qui m'a un peu... qui m'a tout petit peu énervé avec God of War 2018, c'est que c'est un jeu qui est vendu comme un espèce de monde semi-ouvert où il y aurait quand même pas mal de choses à faire, quoi. Donc je me suis dit... À un moment dans le jeu, je me suis dit, je crois que j'arrive pas loin de la fin. Donc je vais faire ces petits trucs annexes, machin. Et en fait, c'était la moitié du jeu. C'était pas du tout la fin. Et donc je me suis retrouvé à faire peut-être le dernier tiers du jeu en ligne droite. Parce que j'avais plus rien à faire à côté. C'était extrêmement frustrant et j'en veux beaucoup au jeu pour ça. Voilà. Sinon, à part ça, ça va. Ça pourrait être pire.
J'en ressens beaucoup d'amertume.
Ouais, voilà, de ouf.
Ouais, moi, il m'en faut pas beaucoup. Et pourtant, je l'ai fini à 100%, je l'ai platiné. Voilà, quoi. Mais...
C'est exactement ce genre de mec qui laisse des avis de... juste genre, c'est un jeu naze sur Steam avec marqué 200 heures de jeu.
Ouais, c'est un peu ça. C'est le seul platine que j'ai en plus.
Oh là là, c'est indécence.
Enfin, bref, on va rechanger de continent. On va partir cette fois-ci en Europe.
Prince of Persia?
Non.
Assassin's Creed 4?
Non plus. Très précis, ça.
Je sais pas si c'est un truc de pirate. Sea of Thieves?
Non plus.
Ça m'évoque un truc.
Uncharted?
Ouais, voilà.
Non plus.
Ah, quoi? Ça y ressemble.
Ah, ça me dit un...
Horizon Zero Dawn?
Oui. Oui.
Bien vu.
Ah,
bien
vu. Je sais pas qui a dit
ça. Oh là là, mais...
Je suis en train de jouer en ce moment, je sais que tu ne me rappelles que c'est la musique du truc.
Bien vu, bien vu. Oui.
Alex, il a...
effectivement,
c'est la honte,
effectivement, hein. C'était Horizon Zero Dawn. Félicitations. c'est un monde ouvert qui aurait été vachement mieux s'il avait pas eu de scénario.
Moi, je propose qu'on se révolte maintenant et qu'on arrête d'écouter ce qu'il raconte, parce que là, non, c'est aberrant.
J'attends juste le dernier extrait où il va nous sortir un truc mais monumental, du type, j'en sais rien, Mario 64 ou Journée, ou je sais pas, ça va être génial.
Non, le dernier extrait est quand même beaucoup plus legit. Non, enfin, je sais toujours pas quoi penser d'Horizon Zero Dawn, alors que je l'ai fait... Bon, je l'ai fait il y a quelques années. Non, je l'ai pas... Oh non, trop chiant en platiné. Non, je l'ai fait il y a quelques années. J'ai écrit une bonne partie de mon mémoire dessus. Mon mémoire de recherche sur les mondes ouverts. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que en fait, je me suis rendu compte que... Il est bien, ce monde ouvert. Mais il a tellement de potentiel à être mieux, à être plus rempli, mieux rempli... que le scénario du jeu pouvait avoir un sens quand même à un moment, que du coup il a baissé dans mon estime, malheureusement. Je pense que je l'ai trop regardé pour pouvoir l'aimer autant qu'au premier jour, alors que ça reste un jeu qui est très joli, qui a des combats globalement réussis, même si ça se répète un peu. Et voilà, c'est beaucoup de mauvaise foi, hein, je vous avais prévenu.
Allez, vas-y, envoie Ocarina of Time, là, qu'on en finisse.
Bon, non, ça serait trop facile. Je veux dire, tout le monde sait qu'Ocarina of Time, c'est un peu nul, quoi. mais t'as pas spécialement tort, Jean, puisqu'on va repartir au Japon pour ce dernier extrait. Vous allez avoir à peu près 15 secondes pour trouver. Bonne chance.
Sonic.
Oui, mais lequel?
Sonic Unleashed, Sonic...
Celui où il se stack les trois qui étaient sur GameCube, non?
Ouais, c'est ça.
Sonic Heroes.
Oui,
c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Bien joué.
Alors c'est drôle parce que j'avais beaucoup aimé ce jeu.
Mais tout le monde a bien aimé les jeux dont il a parlé, en fait.
Oui.
J'ai beaucoup aimé Sonic Heroes quand j'avais 10 ans et... J'y ai rejoué il n'y a pas très très longtemps et je me suis dit, putain, c'est quand même vachement naze, quoi. Genre, le principe est ouf, quoi. Enfin, bon, après, côté Sonic, j'aime pas Sonic Adventure non plus, mais vraiment, genre, je me suis dit, le principe est tellement dingue. Du coup, ouais, donc d'avoir ces trois personnages qu'on peut jouer, donc on peut jouer les trois. Donc, il y a plusieurs teams, il y a la team Sonic avec Sonic Knuckles Tails, la team Shadow. Amy et je sais plus comment il s'appelle l'autre mecha, enfin bref, voilà. Et en fait, quand j'y ai rejoué, je me suis dit, ouais, il y a plein de trucs trop bien, mais j'ai juste, je pense que j'ai posé la manette après une demi-heure de jeu de Tails qui juste dit Tails, Tails, mais à peu près toutes les 5 secondes, vu qu'on a besoin de lui toutes les 5 secondes, très très relou. C'est un jeu qui se joue beaucoup mieux en multi. Voilà, si vous y jouez, n'y jouez pas tout seul. Parce que tout seul, il risquerait de finir dans ce genre de top. Et bien, félicitations, vous avez su relever ma mauvaise foi. Et le mois prochain, nous aurons un blind test de H.
Et comme thème, j'ai choisi, vous avez chanté, eh bien, dansez maintenant. J'avais fait les jeux où on chante, enfin les jeux où, avec des OST chantés. Je vais parler des jeux où on danse.
Oh, très pressé de voir du Project Diva.
Non, même pas. Quoique.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à Nicolas Lopez pour l'entretien pour cet épisode. On vous donne rendez-vous le 20 mars pour notre prochaine émission. Nous serons en compagnie de Thaïs pour sa chronique trimestrielle. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte sur Area, Planet Wisp, composé par Mariko Namba pour la bande originale de Sonic Colors, sortie en 2010.